marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
L'histoire nous aide à la vérité indispensable pour nous définir nous-mêmes par rapport à l'ensemble de l'histoire de l'humanité.
L'ébranlement du droit d'asile.
Je m'étais attaché au cas d'un réfugié venu d'Afghanistan dont véritablement le parcours personnel était absolument tragique. Mû par une forme de naïveté, j'avais demandé rendez-vous au ministre compétent de l'époque. Et puis au bout d'un moment, à bout d'arguments, je dis au ministre compétent « Je ne vous demande qu'une seule chose, voyez-le 10 minutes et écoutez-le. » Et il m'a répondu « Si je les voyais, je ne pourrais plus être ministre. » Et j'ai trouvé ça particulièrement honnête. Si je les voyais, je ne pourrais plus être ministre.
L'avocat François Sureau. Pareillement, un des humanitaires qui œuvre sur l'Aquarius disait « Mais que les décideurs quittent leur bureau pour passer une heure ici, sur le pont surchargé de notre bateau, leur point de vue changera. » Dans la matière de plus en plus difficile de l'asile, la question du temps imparti est de la première importance. Le ministre de l'Intérieur de l'actuel gouvernement a obtenu de l'Assemblée et essaye aujourd'hui d'obtenir du Sénat le rallongement de la période de rétention pour entrée irrégulière et d'un même mouvement, le raccourcissement de la période où le recours est possible en cas de rejet de la première demande d'asile par l'OFPRA. La juridiction administrative qui intervient ensuite pour examiner les recours, c'est la Cour nationale du droit d'asile. Question de temps toujours. Elle a traité en 2015 quelque 38 000 dossiers. Au long de 3 000 audiences et à raison de 14 dossiers par audience, ça ne permet pas une heure d'échange autour de chaque cas. Notre invité, Smaïn Lacher, a accepté d'y être assesseur pendant 14 ans en essayant de ne pas compter les minutes. Sociologue, il était rompu depuis longtemps à l'enquête chez les migrants, mais est-ce d'un grand secours quand l'audience réunit d'un côté des Français disposant du pouvoir de décider et de l'autre des vies minuscules qui ne pèsent pas lourd dans leur pays d'origine et pas davantage dans le pays d'arrivée. Dans ces conditions, le récit est-il dissible, audible ? Pourtant, les membres de la Cour essayent de réduire la marge d'incertitude. On veut croire qu'eux, encore, prennent le droit d'asile au sérieux alors qu'il est tordu en tous sens par les gouvernements européens.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Smaïn Lacher, bonjour. Un livre qui témoigne de ses 14 années chez Gallimard, « Croire à l'incroyable », un sociologue à la Cour nationale du droit d'asile, comme il y avait eu une sociologue au Conseil constitutionnel dans la même collection. Sociologue, d'accord, mais vous parlez de votre origine sociale, vous parlez de votre éducation, la langue arabe.
Oui, c'est important, c'est très important. Pas seulement pour faire des enquêtes en sociologie, auprès de populations qui parlent l'arabe, que ce soit l'arabe moyen-oriental ou que ce soit l'arabe maghrébin. Mais c'était aussi important à la Cour nationale du droit d'asile, avant 2008, la commission des recours des réfugiés. Il y avait, par exemple, beaucoup d'Algériens qui pouvaient bénéficier, même si ça n'a pas été le cas, qui pouvaient bénéficier de l'asile territorial. Et donc, il était facile pour moi de comprendre et donc de faire du même coup l'économie de l'interprète.
Alors, au départ, sentimentalement, à cause de l'origine de votre père, de l'origine de votre mère, ils sont arrivés en France dans les années 1950, vous auriez été pour l'hospitalité sans condition. Mais, sociologue, vous vous dites que ce n'est pas une position politique, ça. D'ailleurs, vous êtes assez mal à l'aise avec les positions politiques binaires.
Oui, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai préféré de loin siéger à la commission des recours des réfugiés devenue Cour nationale du droit d'asile et non pas de m'engager dans un parti politique parce que je suis assez rétif à la soumission partisane ou plus précisément à la discipline partisane. Voilà. Et pour moi, c'est très important d'être socialement, civiquement utile. Et la commission des recours des réfugiés et plus tard CNDA eh bien, ce sont là deux institutions qui convenaient parfaitement à mon éthos de classe.
À votre éthos de classe, quoi, petit bourgeois ?
Oui, petit bourgeois, si on veut, en tout cas. En tout cas, préférant de loin la réflexivité, préférant de loin l'examen, le jugement, qu'au collage d'affiches.
C'est pourtant redoutable, le jugement. Vous arrivez à un moment, 1999, où les catégories se brouillent. Voilà un écho de la préfecture des Bouches-du-Rhône à cet instant. Il y a encore une file asile, d'autres files. Les CADA n'existent guère et les demandeurs d'asile, ils sont là, dissimulés dans la ville, surgissant dans la nuit pour pouvoir, après le petit matin, présenter leur dossier. Mais les présenter où, dans quelle file ?
Quelle heure il est là ?
22h. Quelle heure est-il ? 22h. 22h. Et on attend jusqu'au matin pour passer les premiers. Chacun a son dossier spécifique.
Et le dossier, vous l'avez ?
Je ne l'ai pas sur moi. Le matin, je l'aurai, le dossier. Je ne peux pas dormir avec mon dossier ici. Le risque de le perdre, c'est ça. S'il pleut, comment je vais faire ? C'est très précieux. Demain, c'est l'avocat qui me ramène le dossier.
Chacun prend sa place et on reste en silence.
Le dossier que j'ai récupéré hier, il faut que je le dépose aujourd'hui. Ils m'ont dit à 8h15. Puis là, vous m'avez dit de ce côté, c'est asile. Ben, je vais garder la queue dans les deux côtés. Comme ça, je ne perds pas ma journée encore aujourd'hui.
La queue des deux côtés, les catégories se brouillent. Et puis, vous observez, à partir de 99, vous êtes en poste jusqu'en 2014 comme assesseur à la Cour nationale du droit d'asile, que c'est le monde et les migrations qui se sont complexifiées.
Oui, bien sûr. Vous avez raison de le préciser. À partir de 99, en réalité, à partir de la chute du mur de Berlin et de l'explosion de l'Empire soviétique, les choses vont beaucoup changer. La géopolitique va devenir un élément extrêmement important dans la production du droit d'asile, et en particulier la géopolitique va devenir un élément important de la décision en matière de droit d'asile. Ce n'est donc pas une matière annexe, ce n'est pas une matière superfétatoire, c'est une manière qui va être consubstantielle à la décision du droit d'asile. Les populations vont changer, bien évidemment, mais ça c'est une histoire qui est, je crois, relativement connue aujourd'hui. Avant, entre 52, 53, enfin entre 70 plus exactement et 90, ce sont plutôt des latino-américains et en particulier des réfugiés chiliens et des dissidents des pays de l'Est qui sont accueillis en France. Ils passent par l'OFPRA et la commission des recours des réfugiés, mais ils ont quasiment tous l'asile. Et les dictatures latino-américaines tombent, l'Empire soviétique tombe, et les Chiliens n'ont plus besoin de demander la protection, et les dissidents soviétiques n'ont pas besoin, ou dissidents des pays de l'Est n'ont plus besoin de demander l'asile à la France.
Alors on peut imaginer que chacun d'entre nous a compris cette grande transformation. Chacun d'entre nous n'est pas nécessairement au courant des procédures juridiques, la Convention de Genève 51, 5 motifs de persécution, intégrés dans le droit français, des articles aussi dans le droit français qui sont propres au droit français. C'est l'OFPRA qui fait le premier examen. Quand il y a recours, il y a eu la commission de recours des réfugiés, et maintenant il y a la Cour nationale du droit d'asile. Le récit qui va être fait par les requérants, il porte essentiellement sur ce qui s'est passé dans leur pays d'origine. Ils doivent justifier d'un motif de persécution. Il y en a 5 pour la Convention de Genève.
C'est l'article 1 et 2 de la Convention de Genève.
Mais ce qui s'est passé dans le voyage qui est de plus en plus complexe, qui est de plus en plus long, qui est terrible pour les femmes.
en particulier.
Sur l'Aquarius, le reportage du Monde, formidable, de 2 pages, il y a 2 jours. Une femme qui ne sait dire, en pleurant et en criant, tous les jours, tout le jour, Libye, Libye, Libye.
Oui.
Il s'est passé quelque chose
À l'évidence, pour elle, la Libye est un moment traumatique dans son existence. J'espère de tout cœur qu'elle pourra petit à petit s'en relever, mais elle ne pourra s'en relever qu'à une seule condition, c'est qu'elle trouve protection, c'est qu'elle trouve sécurité, et dans cette configuration, alors les soins seront possibles. Mais généralement, l'asile est plutôt accordé à des gens qui ont subi une persécution dans le pays d'origine. Et la grande inconnue, le voyage, qui peut durer des jours, des semaines, des mois même, est peut-être particulièrement violent. Et il l'est très souvent, pour les femmes. Et quand elles arrivent devant l'OFPRA, quand elles arrivent en particulier devant la Cour nationale du droit d'asile pour faire un recours, et là j'y étais, jamais elles disent que pendant ce voyage, elles ont subi des persécutions, c'est-à-dire des violences, aussi bien de la part de nationaux des pays traversés que de la part des autorités des pays traversés.
Vous dites qu'il faut se rendre compte qu'on a affaire à des gens qui racontent davantage le voyage souvent que le pays d'origine et qui, au départ du pays d'origine, ont connu ce que vous appelez un déracinement capital. Alors vous me disiez, on met toujours un peu de musique aux 2/3 ou à la moitié de l'émission, Smaïn Latchar, on aurait pu mettre du malheur. Oui, mais nous on a une idée, c'est Laurent des Vaches, le grand chant suisse, vous savez pourquoi ?
Vous allez nous le dire.
Ben oui, la légende, la rumeur, l'histoire peut-être, dit que quand les Suisses embauchés comme mercenaires par les armées françaises entendaient le rang des vaches, une sorte d'émotion les prenait. Vous parlez de la culpabilité d'être parti, d'avoir laissé les autres.
Oui.
Et ben ils rentraient direct en Suisse, ils désertaient, et pourtant ils étaient menacés pour désertion de la peine capitale.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Avec Smaïn Latchar, sociologue à la Cour nationale du droit d'asile, c'est un livre chez Gallimard nourri d'une expérience de 14 ans. Alors, vous vous mettez en robe quand vous êtes l'un des 2 assesseurs. Il y a un assesseur qui vient de l'OFPRA. Vous êtes désigné avec avis du vice-président du Conseil d'État par le HCR, le Haut Commissariat aux réfugiés. Vous vous mettez en robe.
Il n'y a
comme
pas de
président.
Robe.
Ah bon.
Le seul qui porte une robe et qui donc montre le caractère ou impose le caractère solennel de la Cour nationale du droit d'asile, c'est l'avocat. Les 3 juges, le président et les 2 juges assesseurs, n'ont pas de robe. Ce sont des gens habillés en civil et qui ne montrent en rien le caractère absolument solennel de l'institution.
Les avocats, il faut bien qu'ils soient en robe, parce que vous dites que ce sont souvent, il y a des exceptions, on entendait François Sureau qui consacre beaucoup de temps au droit d'asile et qui est un avocat célébrissime, mais souvent ce sont des avocats dominés, dites-vous.
Oui, parce que ils prennent en charge des requérants, des personnes qui sont socialement, intellectuellement, culturellement, linguistiquement dominées. Et souvent, les avocats, et il y en a d'excellents, souvent les avocats, au fond, n'ont comme comme activité principale que la défense des réfugiés. Il faut bien voir que les demandeurs d'asile se situent au plus bas de l'échelle sociale. Et donc, il y a quelques affinités structurales entre l'avocat et le demandeur d'asile.
Si vous étiez sociologue, vous diriez qu'il y a homologie.
Absolument.
Chacun d'entre nous ment un peu dans le récit qu'il fait de quelque chose. Et vous étiez pris de colère parfois quand l'avocat y allait comme ça, après avoir dit que la France était le pays des droits de l'homme, sur le thème « Regardez ce pauvre bougre, il est analphabète, il ne sait pas s'exprimer.
Enfin, » Oui, enfin, j'ai une particulière aversion pour la compassion mal placée. J'ai une détestation sans commune mesure contre la condescendance.
Ne vous mettez pas en colère, s'il vous plaît, soyez de la chair. Alors, il y a quelqu'un de très neutre dans l'apparence. C'est le premier personnage qui apparaît bien avant l'avocat, devant le président et les assesseurs. C'est le rapporteur qui examine les conditions dans lesquelles a été fait le rejet en première instance, entre guillemets, devant l'OFPRA. C'est un reportage des pieds sur terre. On fait beaucoup appel aux pieds sur terre de Sonia Kronlund aujourd'hui. À une époque antécédente, la Cour était encore la commission de recours des réfugiés.
Très bien, bien sûr, madame la rapporteure, nous vous écoutons.
Merci, monsieur le président. Il s'agit d'une demande de réexamen. Madame et son fils sont de nationalité ouzbek, d'origine russe et de confession chrétienne. Sa belle-fille, Madame de nationalité ouzbek, d'origine ukrainienne par son père et tatar par sa mère. Ils ont quitté leur pays le 5 décembre 2004 et sont entrés en France irrégulièrement le 17 février 2005. Ils ont introduit une demande d'asile devant l'OFPRA le 22 avril 2005. Leur demande a fait l'objet d'un rejet le 6 octobre 2006. Et leur recours est en date du 20 mars 2007. Donc à l'appui de sa demande initiale, M. a fait valoir qu'il avait été victime de discrimination et de menaces dès 1991 en raison de son origine russe et de sa confession chrétienne. Le 3 décembre 2004, son épouse a été enlevée brutalement par des policiers à son domicile en son absence et l'un de ses fils a été maltraité. Il est parvenu à obtenir la libération de son épouse le 4 décembre suivant en payant un pot de vin. Et il a quitté son pays avec sa famille et sa mère et craint pour sa sécurité en cas de retour en Ouzbékistan pour avoir sollicité l'asile en France.
Alors le rapporteur connaît les faits, connaît la jurisprudence. Qu'est-ce qu'elle sait? Vous avez une documentation pays de la situation de la minorité russe en Ouzbékistan en 2004?
Oui. Au fil du temps, les informations ont été de plus en plus précises, de plus en plus pertinente et les pays d'origine des requérants sont devenus de plus en plus connus. Et les juges ne sont pas du tout totalement démunis quand ils voient arriver un requérant, même d'une contrée lointaine, quasiment inconnue des juges. Il y a d'excellents rapports, par exemple, les Suisses fournissent d'excellents rapports sur l'asile dans le monde. Les Canadiens, les Anglais, n'oubliez pas le département d'État américain qui fait chaque année un état des droits de l'homme dans le monde. Et puis surtout, l'OFPRA et la Cour nationale du droit d'asile mènent aujourd'hui des missions communes dans un certain nombre de pays d'origine des requérants. Et on voit donc là que les jugements ne sont pas du tout pifométriques, mais au contraire s'appuient sur des documents toujours actualisés et qui prennent en compte les réalités complexes des pays d'origine des requérants.
Mais tout de même, quand le président, ça peut être ensuite les assesseurs, tente le dialogue avec le requérant, toujours notre chef de famille russe d'Ouzbékistan, même avec le truchement d'un interprète, c'est pas très facile, on est dans une situation d'asymétrie.
Nous allons dialoguer directement avec les requérants. Alors précisément, s'agissant de monsieur, est-ce qu'il peut nous expliquer la nature de ses agressions? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on lui demandait, qu'est-ce qu'on lui a fait concrètement?
По первому нападению я могу сказать, что они ничего не просили, они
требовали, что, как и все русские, убирайтесь из Узбекистана. Вам...
Ils ont exigé en disant, mais comme tous les autres Russes, vous allez quitter l'Ouzbékistan parce que vous n'avez rien à faire ici.
После этого, вернее, нас начали сильно избивать. Мы были с другом, и даже один пытался напасть на моего ребенка.
Donc ensuite ils ont commencé à nous passer à tabac. J'étais avec un ami et à un moment donné, il y en a un qui a essayé d'agresser mon enfant. Et à ce moment-là, donc je l'ai frappé. Et par la suite, donc on a été tabassé avec mon ami. Bon, comment est-ce qu'ils nous ont frappé? Qu'est-ce que je peux dire? Ben, c'est avec les mains, avec les pieds.
Alors est-ce que il y a à ce moment-là, lorsqu'il était à l'hôpital après cette agression, est-ce qu'il y a eu des certificats médicaux qui ont été établis premièrement? Et deuxièmement, est-ce qu'il a porté plainte officiellement auprès des autorités ou de la police pour dénoncer ses agresseurs, même s'ils lui étaient inconnus?
Les certificats médicaux, monsieur le président, la copie du dépôt de plainte en Ouzbékistan, c'est facile à dire, mais les preuves.
Oui, alors, je voudrais tout d'abord noter que ce président a commencé par poser une question ouverte. Et il demande au requérant de lui raconter, de raconter à la cour ce qui lui est arrivé. Ce qui est déjà important. Il ne commence pas par demander un certain nombre de dates, des lieux, aussi précisément que possible. Bon. Alors, la question du certificat médical et de la plainte, effectivement, quand on ne connaît pas la Cour nationale du droit d'asile ou quand on ne connaît pas ces institutions qui traitent de l'asile, ça peut prêter à sourire. Et on aurait tout à fait raison de sourire. Aller demander à un chiite pakistanais qui constitue une minorité persécutée au Pakistan, d'aller s'adresser à un commissariat où les policiers seraient sunnites, il viendrait leur dire écoutez, je suis chiite, j'ai été persécuté par des sunnites, je voudrais des preuves de cette persécution. Quant au certificat médical, nous sommes dans la même configuration. Il y a des pays où c'est absolument impossible. Et même si c'était possible, figurez-vous qu'un certificat médical venant de quelqu'un de RDC, un certificat médical d'une institution de RDC serait peu crédible à côté d'un certificat médical venant d'une institution française ou d'un centre médical français.
Et puis, plus on insiste en demandant des preuves, plus la tentation vient, bien sûr, d'essayer de fabriquer des preuves, des faux certificats médicaux. Vous donnez des exemples dans votre livre « Smaïn Lacher ». Et le récit, pour qu'il soit crédible, audible, est-ce qu'il ne faut pas qu'il soit aussi arrangé? Peut-être qu'on l'a arrangé pendant le voyage. Les passeurs, ça sert aussi à ça. Et puis peut-être des conseillers venus de telle ou telle association. Voilà un exemple d'un Afghan que connaît bien Raphaël Kraft, un documentaire de France Culture encore. Il s'appelle Haïdar. Dans un premier temps, il a fait un récit tel qu'on lui avait conseillé de le faire, mais ça n'a pas marché. Alors Brigitte est là, à ses côtés, et elle essaye, pour le passage devant la CNDA, de lui faire exprimer sa vérité, mais ce n'est pas facile non plus.
Donc pour revenir à ton père, donc il était toujours armé, il sentait que des fois il était un peu surveillé, si j'ai bien compris.
Oui, il était toujours avec une machine, avec une pistolet.
Mais il avait peur, même 14 ans après.
Et une fois quand il fait soir, il a fermé le magasin, il est parti à la maison, mais en route, il a eu deux personnes avec le moto.
Tu dis qu'il y avait deux personnes à moto,
ouais.
Et lui il était à pied?
Oui, il était à pied, mais il est parti comme ça, et après lui aussi il a fait les trucs, mais il n'y a personne.
D'accord.
Qui a tué.
Il a essayé de se sauver,
ouais, voilà.
Et lui aussi a riposté,
ouais,
avec son
après,
arme,
ouais, voilà.
Eux ils sont partis, et lui il est mort.
Mon père?
Oui.
Non, il aussi il était vivant, il n'y a pas de personne qui a tué.
Personne n'a été tué?
Ouais.
Et il a été tué quand ton père alors?
2014, quand on était au Pakistan.
Attends, parce que là, ce que tu viens de me raconter, c'est pas quand il est mort.
Non.
C'est juste une fusillade qu'il y a, ouais, eu entre lui et d'autres, voilà, personnes.
Ça, c'est, je sais pas c'était quand, mais...
C'était longtemps avant?
Ouais, 2010, 2009, je pense.
Oui, donc c'est donc passé quelque chose avant 2014.
Ah, et la cohérence externe, il faut que les dates coïncident. Il faut que ce qu'on sait du Pakistan coïncide avec le récit de l'Afghan. La oui. cohérence interne, parce qu'il n'a oui. pas dit la même chose dans un premier
Absolument.
Temps. Et puis, l'indicible. Je voudrais que vous reveniez sur l'exemple des femmes. Vous citez un cas, une dame d'une trentaine d'années, africaine, elle en paraît bien davantage. Je ne peux pas vous dire, c'est trop de malheur. Et là, vous demandez le huis clos.
Oui, parce que... ça m'est arrivé personnellement de nombreuses fois de demander le huis clos parce que ce sont des séances publiques. Donc il y a des gens qui écoutent et il y a des gens qui regardent. Et le requérant ne sait pas toujours qui l'écoute et qui le regarde. Et puis des choses dites sur son intimité, sur des violences que l'on a subies, c'est extrêmement difficile à dire devant du monde, devant des gens qui sont là et qui vous écoutent. C'est déjà difficile de dire des choses sur soi à trois juges. Figurez-vous que ça doit être encore beaucoup plus difficile de les dire devant trois juges et devant une dizaine ou une quinzaine de personnes. Et c'est pour ça que je demande le huis clos, parce que je pense c'est pas toujours extraordinaire comme procédé, mais je pense que ça contribue à introduire un minimum de confiance, à non pas libérer totalement la parole, mais à dire des choses qu'on n'aurait pas pu dire publiquement. Voilà. Le huis clos est quelque chose qui s'apparente à de l'espace privé, et il est plus facile, en particulier pour les femmes, de dire des choses sur elles, des choses qui l'ont souvent salie. À l'extrême, de dire des choses aux trois juges, en particulier quand les juges prennent le soin d'être attentifs et de mettre en confiance et de dire qu'on ne jugera pas ce qui est arrivé à la requérante.
Audience égale écoute. Juste deux chiffres pour finir, Smaïne Lachère. Combien de refus de l'OFPRA en 2015-2016? Combien de recours rejetés par la CNDA, à laquelle vous avez participé pendant 14 ans?
Je n'ai pas les chiffres exacts, mais je sais pour les derniers chiffres que OFPRA et CNDA, je crois en 2017, ont permis à plus de 35% de demandeurs d'asile de devenir des réfugiés et donc d'être protégés par l'État français.
Et les auditeurs calculeront le pourcentage de refus, mais vous prenez le droit au sérieux et vous acceptez.
C'est important. C'est pas loin de 70%.
Participer à des refus.
Oui, absolument. Sinon, j'aurais quitté tout de suite. Sinon, je n'aurais même pas accepté de siéger à la Commission des recours des réfugiés.
Croire à l'incroyable, votre livre chez Gallimard. Merci à vous.
Merci.
Smaïne Lachère. L'émission a été préparée par Franck Olivard et Ninka Negulesco, Frédéric Martin, à la technique Jérémy Guillon. Et la réalisation, c'était Audrey Ripouille.